Chapitre 11. Une fois que Biguet eut accepté l'idée que j'allais lui faire cadeau d'un bijou, elle ne se tint plus de joie. Un bonheur enfantin l'entraînait à parler sans cesse de ce futur présent. Xavier et moi, nous la taquinions. Elle avait mis comme condition pour accepter que nous tenions la chose secrète et surtout vis-à-vis d'Abby, qui n'aurait pas manqué, si elle en avait été informée, de rapporter ce fait à la tante. Aussi nous lui disions que si elle ne faisait pas attention, comme elle en parlait tout le temps, elle allait elle-même se trahir un jour devant Abby. Cette perspective l'effrayait et, rien que d'y penser, elle roulait des yeux terrorisés. Comme cette mimique amusait beaucoup Xavier, je pense que Biguet l'exagérait à outrance, tout au plaisir de voir ma fille rire. Puis un soir, alors que nous étions au lit, Biguet m'avoua timidement qu'elle avait vu, en allant au marché de Carmel, le bijou de ses rêves. Elle se fit chatte pour me convaincre d'aller avec elle l'acheter le lendemain soir. Quand je lui demandais dans quelle bijouterie elle l'avait choisi, elle me dit « Tu sais, c'est pas bijoutier pour les madames françaises. C'est un chinois qui vend qu'aux africaines. Mais c'est de la bonne marchandise. C'est là qu'on va pour les mariages. » « Alors c'est un peu comme si je te faisais cadeau de ta dot, » dis-je pour la taquiner. « Mais quand on va ensemble, laisse-moi marchander. Je veux pas que le chinois te roule. Comme tu es un blanc, il va essayer. » « D'accord, je te laisserai mener la négociation. » Le lendemain soir, après mon travail, nous laissâmes Xavier seul à la maison et nous nous rendîmes en voiture chez le bijoutier chinois. Je fus pour ma part assez dépaysé. Dans la boutique, sauf le marchand et moi, il n'y avait que des Africaines. Des femmes de tous âges, seules ou en groupe. Elles venaient surtout pour se faire montrer les bijoux, les essayer et en demander les prix. Mon entrée créa une diversion dans cette jolie volière. Et toutes se mirent à m'apostropher gentiment. Hé, Toubab, c'est pour m'offrir un bijou que tu viens ce soir? Regarde, tu me trouves pas jolie? Allez, fais ton métier d'homme, même si tu ne fais pas de cadeau, dis-moi, Tiankabi qu'aura fait. Si tu me paies un bijou, je serai très câline et j'irai au lit avec toi. Et de se trémousser pour se mettre en valeur et de rire et de me bousculer amicalement. Mais, leur objectai-je, un peu abasourdi, je suis avec cette jeune femme, c'est pour lui choisir un bijou que je suis venu. Elle se récriait, critiquant la plastique de Biguet, soutenant qu'elles étaient mieux faites, qu'elles savaient mieux s'occuper d'un blanc, elle nous mettait gaiement en boîte. Biguet, loin de prendre la mouche, répliquait du tac au tac, et riait avec elles toutes. Le marchand chinois, flairant la bonne affaire, nous dépêcha un de ses commis qui nous aida à nous dégager de cette foule chahuteuse et nous fit asseoir devant une petite table. Il nous présenta différents pendentifs que Biguet prenait un plaisir manifeste à essayer tous. Elle m'interrogeait sur mes préférences. Le vendeur lui faisait des compliments superlativement élogieux. Puis finalement, Biguet dit qu'elle avait vu un bijou qui lui plaisait beaucoup plus dans la vitrine et se leva pour le montrer au vendeur. Tous deux revinrent avec le bijou. Le vendeur tenta de le dénigrer à mes yeux. Le titre d'or était inférieur à ceux qu'il avait montrés précédemment. Le travail du filigrane, moins fin. Le métal, trop rouge. Mais Biguet tenait bon et, profitant habilement de ce que le vendeur dépréciait lui-même sa propre marchandise, elle fit baisser le prix. Le vendeur, qui voyait qu'une meilleure affaire allait lui échapper, me proposa. « Si mademoiselle veut vraiment ce bijou, nous avons des boucles d'oreilles assorties qui compléteraient parfaitement la parure. » Le prix obtenu par Biguet m'avait paru si dérisoire que j'acceptais qu'il nous les montre. Il partit dans l'arrière-boutique chercher sa marchandise. Effectivement, les pendants d'oreilles étaient jolis. Biguet, qui s'était montré plus que réticente devant sa proposition commerciale, me parut séduite. J'insistai donc pour qu'elle les essaie. Alors qu'elle tendait la main pour saisir une des boucles, une tornade hurlante se jeta sur nous en vociférant. « Si tu fais boutique mon cul avec lui quand tu refuses de le faire pour moi, tout ce qu'il te donne, tu me le dois. » C'était la tante, dont l'indignation agitait une montagne de graisse. Elle tenait Biguet qui s'était levé par le bras et la secouait comme un prunier. Un attroupement s'était formé autour de nous et les femmes jacassaient en wolof, échangeant sans doute leurs commentaires sur l'événement. Indigné, je m'interposais et détachais avec beaucoup de mal la grosse femme de sa proie. Comme je l'avais bousculée, elle perdit l'équilibre et se rattrapa au bras de quelques femmes de l'assistance afin de ne pas tomber. À peine remise sur pied, elle retrouva toute sa majesté et sa dignité et me toisa avec colère. Moi aussi, je l'étais en colère. « Je vous interdis d'ennuyer Biguet. Si vous l'agressez encore, je porterai plainte à la police. Mais elle me doit beaucoup d'argent. Elle n'a jamais payé ses dettes. Vous mentez. J'ai payé toutes les dettes qu'elle avait envers vous. Le voyage depuis la Casamance, le loyer, la remplaçante. Elle ne vous doit absolument plus rien. Je suis sérieux. Si vous continuez à l'importuner, j'en référerai à la police où j'ai des amis. » Mais elle doit travailler pour moi. Sa famille a pris l'engagement. C'est pour ça que je l'ai fait venir. Elle, très, très malhonnête, pas d'honneur, si elle ne fait pas ce que la famille a promis. Et moi, je vais exiger que la famille me rembourse le prix que j'ai donné pour elle. Tout ça, c'est des histoires. Vous ne perdez aucun argent, je vous ai payé une remplaçante. Biguet ou une autre, pour ce que vous en faites, c'est du pareil au même. Et je vous rappelle que le proxénétisme est puni par la loi. Si vous persistez à ennuyer Biguet, je vous dénoncerai. Salaud, salaud, hurla la tante. « Je me vengerai, ça je promets, je me vengerai, méchant espèce de sale toubab !» hurlait-elle en me montrant le poing. Mais si elle m'insultait, elle s'avoua vaincue car elle gagna la sortie entourée de la horde de matrones avec laquelle elle était arrivée. Durant toute cette altercation, Biguet était demeuré debout, immobile, les yeux baissés. Je m'étonnais qu'elle ne se défende pas et n'insulte pas la tante à son tour. Son silence me surprit. Et je fus encore plus surpris quand je dis au marchand de nous emballer les bijoux choisis. Biguet refusa alors que je les achète. « Je t'ai promis ce cadeau et tu vas l'avoir. Je sais que tu as envie de ces bijoux et qu'ils te plaisent. Je ne vois pas pourquoi tu refuses. » Et je lui ai acheté le pendentif et les boucles d'oreilles. Quand nous fûmes assis dans la voiture, Biguet dit à mi-voix. « Tu as eu tort, patron. Fallait rien acheter. »« Mais pourquoi ? Les bijoux te plaisent ? Tu en as envie ?» De toute façon, je ne pourrai pas les avoir, la tante ou Abby vont me les prendre.